Les podcasts de Bien en Périgord.
Myriam, bonjour. Bonjour et merci d'accorder cette conversation avec le média Bien en Périgord. En 2022, vous avez créé une entreprise qui porte le nom poétique De la Lune à la Terre. Pouvez-vous nous en dire plus, parler des services que vous proposez ?
Bonjour, merci à Bien aussi de m'accorder cette entrevue. Alors, cette entreprise De la Lune à la Terre propose trois types de services. La fabrication artisanale de toilettes sèches pour l'intérieur ou l'extérieur de la maison, l'accompagnement au compostage, et puis la troisième volée concerne des petites structures ou objets décoratifs en bambou, qui peuvent d'ailleurs rejoindre les deux premières parties de l'entreprise.
Ah, très bien, ça c'est très important dans ce contexte d'urgence écologique. Dites-nous un petit peu le cheminement qui vous a conduit à porter ce projet et à créer cette entreprise. Il y a dû y avoir tout un tas, je suppose, de rebondissements pour mettre au monde ce projet.
Alors, on peut remonter loin, on va remonter
on
à
peut
l'enfance.
Remonter un peu, ouais, surtout. Ouais.
Forcément, l'enfance a quelque chose à voir avec cela. Je suis une fille d'agriculteur. Alors conventionnel certes, mais les mains dans la terre malgré tout. Donc j'ai un peu grandi dans les tas de bois et les tas de paille pour jouer, etc. Donc l'habitude de l'extérieur, du contact avec la nature, c'est primordial. Il y a aussi un choc à l'adolescence, c'est la vision du film « Danse avec les loups ». Ça m'a fortement impacté. Et à défaut d'être une indienne, en tout cas, voilà, ça a renforcé ce lien avec la nature. Voilà, pour l'enfance, ça tient à ça. Et puis, petit à petit, j'ai cheminé et mon expérience professionnelle, après, même si elle était davantage liée au tourisme et à l'animation, a conforté cela, presque à mon insu d'ailleurs.
On sent bien que la nature a été essentielle hein, dans votre histoire et dans votre parcours. Je suppose que vous avez pu aussi développer certaines choses dans vos expériences professionnelles antérieures, en l'occurrence au sein du site du château de Neuvy, que ce soit au niveau du château lui-même ou du parc botanique.
Oui, ça a été une expérience très intéressante par rapport à ce parc botanique notamment, pour découvrir toute la diversité du végétal. D'autant plus que je n'y connaissais à peu près rien en plantes, donc là j'ai vraiment...
Ah, pourtant fille d'agriculteur,
et pourtant
c'est marrant.
Comme quoi, les chiens peuvent faire des chats, finalement. Mais là voilà, j'ai découvert, j'ai rencontré les jardiniers, les pépiniéristes aussi des journées des plantes, ça a été une source d'inspiration assez importante, et surtout d'enrichissement sur les connaissances, sur l'approche des plantes aussi... Et ne parlons pas des conférenciers aussi qui sont passés. Hein,
Parlons-en justement.
Parlons plutôt.
Quel type de conférences vous organisiez et puis les intervenants, quoi, d'où ils venaient, quelle thématique a été abordée, quoi. C'est intéressant, oui.
Alors, il y avait des intentions aussi de personnes très connues ou pas, et bon, plutôt ou pas, en fait, mais en tout cas des personnes compétentes. Et ça, c'était le plus important. Je pense notamment à Jean-François Lifout, qui est un maraîcher en Dordogne, qui fait la production maraîchère depuis de nombreuses années, et surtout qui a développé des purins, qui se bat pour les purins de plantes, puisqu'il faut se battre pour cela.
Rappelez-nous ce que sont les purins de plantes pour les gens qui ne seraient pas au fait de cette technique.
Ah oui, alors il s'agit en fait de laisser macérer des plantes. Alors suivant ce que l'on veut faire, on va prendre par exemple de l'ortie pour la fructification, de la prêle pour... me semble-t-il, j'espère que je ne dis pas de bêtises non plus, j'espère que je me souviens bien
non,
de ce que j'ai entendu.
On ne va pas vous piéger, mais bon, voilà.
Donc l'aprèle, je pense que c'est pour stopper un petit peu les attaques, et puis il y a la consoude.
Donc des solutions naturelles à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans nos potagers.
Exactement, de lutte contre les maladies qui existent. Et voilà, et ce sont des solutions naturelles, effectivement, où il n'y a pas de visée financière ou autre derrière, de mainmise sur le vivant, comme on peut malheureusement le constater sur d'autres produits nocifs qui plus est. Donc voilà, l'idée c'était sur ces conférences aussi d'aborder des aspects concrets, pratique et d'avoir des personnes qui nous permettent d'aller dans le pratique. Je pense aussi à la culture en lasagne, par exemple, ou la problématique de l'eau qui a été traitée avec le directeur d'Agrobio à l'époque, Emmanuel Marseille. Enfin, après lui, il est devenu maintenant brasseur, donc, finalement.
Oui, brasseur bien connu dans notre département, effectivement, avec la bière Nové. Ouais,
donc, il a résolu le problème de l'eau, hein, voilà, de l'approvisionnement en eau. Ouais. Voilà, donc ça, tout ça m'a beaucoup apporté, pardon. D'autant plus que mon travail de guide aussi me permettait de retraduire pour le public, quel qu'il soit, que ce soit des enfants, des adultes, sensibles, pas sensibles, eh bien, au moins de discuter, d'échanger et de pouvoir transmettre, ce qui était, et ce qui est toujours pour moi très important.
Oui, de toute façon, que ce soit un patrimoine bâti ou végétal, c'est un patrimoine commun que nous avons tous en commun et que de toute façon, il est bien de protéger avec des actions qui aient du sens. Donc, ces Journées des Plantes, finalement, étaient un espace de rencontres riches. Il y avait certainement aussi d'autres aspects, peut-être au niveau des personnes qui pouvaient intervenir outre les exposants, on va dire les... aidez-moi bah, les pépiniéristes, voilà. Les conférences, et il y avait d'autres sortes de
bah, après, il y avait toute richesse où on était aussi sur des artisans. Alors ça, c'est quelque chose que je développais par goût, justement lié à mon histoire personnelle, des artisans de l'éco-habitat. Mmh. Voilà, parce que là, c'est pareil, c'est un tout, en fait. Ouais. Le vivant, c'est un tout. Alors, à titre personnel, donc, j'ai un habitat en paille, dont je suis très, très satisfaite. Là aussi, ce sont des rencontres avec des artisans qui ont décidé d'aller vers des matériaux plus sains, produits localement. Alors bon, hein, il ne s'agit pas de donner des leçons, il ne s'agit pas de dire on fait mieux que les autres, il s'agit juste de partager des expériences aussi. Et tout ça, j'ai pu le faire au château de Neuvic aussi, lors des Journées des Plantes, effectivement, essayer de sensibiliser à mon échelle aussi à cette époque-là un petit peu le grand public.
D'autant plus que certaines techniques comme la construction à paille, bon, ça fait à peu près, vous m'aviez dit, 10 ans que votre maison est construite, si je ne me trompe pas. C'était des techniques encore confidentielles et aussi il y avait une notion d'une petite prise de risque dans ce choix de construction.
Tout à fait. Alors à l'époque, il n'y avait pas de garantie décennale. Voilà. En fait. C'est ça. Voilà. Elle est arrivée, je crois, 2 ou 3 ans après. Ça veut dire que s'il y avait un défaut, eh bien, c'était une prise de risque à ce niveau-là de ne pas avoir de couverture d'assurance avec les artisans. Après, c'est marrant parce que c'est une technique qui finalement n'est pas très récente. Parce que la plus vieille maison en paille de France, qui est la maison Feuillette dans le Loiret, elle a 100 ans. Elle a même 102 ans cette année. Et au niveau entretien, ça a été la taille de la vigne vierge qui pousse sur ses murs. Donc en fin de compte, il n'y a rien eu à faire. Voilà. Mmh. Donc il y a vraiment aussi beaucoup à faire à ce niveau-là. Mais après, on ne peut pas être partout. Et surtout, je ne suis pas, je suis pas dans le bâtiment quand même. Tout à fait.
Vous êtes allé plus loin aussi dans cette construction parce que bien entendu, vous y avez associé, je suppose, des toilettes sèches et ce qui va avec.
Exactement. Et là, la boucle se reboucle. C'est ça, c'est les toilettes sèches. Voilà, d'entrée de jeu, moi, dans mon habitat, j'y souhaitais en avoir. Et c'est pareil, j'en suis très contente. Bon, parce que, parlons franchement, le problème des toilettes sèches, pour les personnes de ma génération, c'est qu'on a été confrontés à la peur du loup ou de n'importe quel monstre quand il fallait sortir la nuit chez ses grands-parents pour aller dans les toilettes au fond du jardin. Il y avait déjà plus de loups à cette époque-là. On peut peut-être un peu plus en avoir peur maintenant si on veut avoir peur du loup puisqu'ils reviennent dans notre équilibre. Donc ce sont les odeurs, ce sont toutes ces problématiques-là qui se posent. Alors, dans toute toilette, suivant ce que l'on y fait, il y a des odeurs. Mais dans toute toilette, au bout d'un moment, cette odeur s'en va. Donc il faut lever ce frein. Mais par contre, par rapport à ces doutes qui peuvent encore subsister, et heureusement, les jeunes générations, ils seront beaucoup moins sensibles parce qu'ils n'ont pas connu ce traumatisme de sortir dans la nuit pour aller aux toilettes dehors. Donc ils ont une autre approche des toilettes sèches. C'est ce qui me donne envie de les personnaliser dans ma fabrication. C'est pour ça que je parle plutôt de toilettes artisanales. On ne va pas dans le high-tech, moi je ne suis pas ingénieur chez Airbus avec la fibre de verre, etc. Mais par contre, j'aime bien utiliser des matériaux pareil, de récupération ou locaux, du bois, tout simplement. On a quand même beaucoup de ressources en bois dans notre département notamment. Et l'idée, donc, c'est de faire quelque chose d'esthétique ou qui plaise en tout cas à la clientèle pour peut-être aider à franchir ce cap de d'avoir des toilettes sèches chez soi. Voilà.
Oui, puis concernant les odeurs, puisque je me suis un petit peu documentée quand même avant de vous rencontrer, il y a des systèmes qui limitent ces odeurs, en l'occurrence sur les kits, je ne sais plus comment ils s'appellent, sur des kits de séparation en fait des matières.
Tout à fait. Alors il y a maintenant d'ailleurs des systèmes de tapis qui permettent effectivement la séparation des matières fécales et de l'urine. Donc on a moins de mélange, donc il y a des manutentions qui sont différentes. Mais quand bien même les matières sont mélangées, l'odeur n'est vraiment pas un problème prioritaire pour les toilettes sèches.
Mais c'est surtout la sciure qui intervient et qui peut-être à l'époque de Pépé et Mémé, elle n'était pas toujours déversée
<C'est vrai. rire>
à la fin de la petite ou grosse commission.
C'est vrai, et je n'ai pas souvenir effectivement d'avoir mis de la sciure ou des copeaux
oui,
à ce
voilà,
moment-là.
En tout cas, il y a tout un tabou à lever.
Oui.
Et
d'ailleurs, c'est merci de parler de ce tabou. C'est de là que vient un peu le nom de mon entreprise de la Lune à la Terre.
On est très curieux.
Alors en fait, bon, on sait que la Lune, c'est le petit nom que l'on donne quand on est enfant, hein, pas quand on est adulte. Bien qu'on parle encore de lune de miel, hein, malgré tout. Voilà, c'est la référence. Eh bien, voilà, à notre de l'UNU quand on est enfant, donc à nos fesses. Et donc, voilà, eh bien, ce que l'on produit par ce biais-là peut enrichir et enrichit naturellement la terre. Hein, voilà. D'autant plus que voilà, c'est une problématique qui ne se pose pas quand on doit utiliser du fumier ou de la crotte de cheval, de mouton, de poule dans nos jardins, mais dès qu'il s'agit de la nôtre, là, ça coince. Eh bien, on décoince. De la Lune à la Terre, décoince. Voilà. Et j'en profite pour remercier, je ne la nommerai pas parce qu'elle est pudique, mais l'amie qui a trouvé ce nom pour moi, pour mon entreprise, et que j'ai tout de suite adopté.
Moi, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue, hein, un peu. Je vous écoute parler, tout ça. On sent bien ce bain de nature, cette joie enfantine de jouer dans la boue. Il y a quelque chose de très pur dans tout ça, mais je vais revenir, parce que je crois que je suis quelqu'un un peu curieux, sur ce film « Danse avec les loups ».« Danse avec les loups ». Pourquoi ce fut un tel choc pour vous à l'adolescence ? Pourquoi ça a été aussi un déclic, ce film, pour vous ? Si vous voulez bien nous en dire deux mots.
Ah ben avec plaisir. Après, l'adolescence est une période où on a une certaine sensibilité aussi. Ça a vraiment été un coup au cœur. Même de mettre des mots, c'est un peu compliqué encore à l'heure actuelle. C'est plus un ressenti.
C'est très intime, ouais.
Mais ça m'a... J'ai eu l'impression d'une révélation, comme s'il y avait quelque chose en moi et que ça venait parler à cette petite partie de moi dont j'avais pas conscience. Bon, parce qu'on peut pas dire que c'est d'avoir regardé les westerns à la télé avec mes frères, ça développe pas trop l'amour de l'Indien d'ailleurs, en principe. Mais ce qui est d'ailleurs curieux, en y repensant, c'est que dans Saïklou, la première fois que je l'ai vu en Angleterre, au moment du jumelage, donc c'était en version originale. Et heureusement, les dialogues en indien, en Lakota, en Sioux Lakota, étaient sous-titrés. Alors, en anglais, donc j'ai réussi à comprendre le film, finalement, grâce aux dialogues indiens, parce qu'après, j'étais quand même pas assez costaud en anglais à ce moment-là. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi, cette approche-là, de ne pas l'avoir eu en français, a dû me connecter d'une certaine manière à ce qui se passait sur l'écran et à cette histoire de manière très forte. En tout cas, je crois que j'ai été vraiment subjuguée, c'est le mot, et touchée par la relation harmonieuse qu'ont les Indiens avec leur environnement. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas sortis de l'environnement, de la nature. L'être humain fait partie au même titre qu'une coccinelle ou qu'une blatte, hein, aussi, d'ailleurs, même si c'est moins inspirant. Et les Indiens ont toujours eu ce mode de vie-là, les Indiens, quels qu'ils soient, ou en tout cas ce qu'on appelle les peuples premiers aussi, dans ce rapport équilibré à la nature, à l'environnement. Nous, on grandit hors sol, et c'est un peu dommage, on se coupe de tellement de belles choses. Et je crois que c'est ça qui m'a vraiment tapé fort au cœur. Et d'ailleurs, si je peux faire une petite biscouette
allez-y.
Pour revenir sur ce parcours, ça me fait penser à Éric Julien, Je ne sais pas si tout le monde connaît Éric Julien non plus. C'est un Français qui vit dans la Drôme, originaire de là-bas, et qui, par son parcours personnel, a été amené à rencontrer les Indiens Kogi en Colombie. Alors, pour ceux qui aimaient bien l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue, c'est l'épisode qui se passe avec Thomas Pesquet, voilà, qui va aller avec ses Indiens Kogi vivre une expérience. Eh bien, Éric Julien transmet aussi un peu de leur un peu et beaucoup de tout ça. Il y a un échange avec ces Indiens Kogi et il propose des formations dans la Drôme dispensées par l'école pratique de la nature et des savoirs où en fait cette approche-là permet un petit peu eh bien de se re-questionner. Voilà, et bref, j'ai suivi une formation dans mon cheminement après avoir quitté le château de Neuvic. Pour savoir ben, piloter ma transition ou l'art du passage, c'est le nom de cette formation.
Merci, merci de nous livrer toutes ces pensées intimes et empreintes de poésie aussi et de belles choses. C'est en 2021 donc que vous sautez le pas, si je ne me trompe pas. Quel a été pour vous le déclic, la rencontre ou je ne sais quoi, qui vous a amené à faire ce choix de sauter du salariat à l'entrepreneuriat?
Alors ça, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Hein. Mais après, en fait, ça a été une réflexion de se dire, bon voilà, maintenant je suis à une étape de ma vie, qu'est-ce que je vais faire, donner du sens, etc. Donc c'est une réflexion que j'ai eue avec la fameuse amie qui a trouvé le nom de mon entreprise. On est parti sur ce qu'on appelle un ikigai qui permet voilà, de repositionner un petit peu ses aspirations, ce que l'on est en soi, et c'est pas forcément facile de le savoir, ce qu'on a envie de faire et comment on peut concilier en fait le tout, c'est-à-dire de donner du sens à tout ce que l'on fait ou à un maximum de choses, y compris la vie professionnelle. Donc, ben voilà, ça a été de dire qu'est-ce que je peux faire, je veux aller vers l'écologie, mais comment? Et donc, on a fait cette ikigai, et puis après, on a dit, bon, ben allez, on va partir sur des formations, donc piloter ma transition. Et puis après, ben, pour le plaisir, ça a été d'apprendre à créer des objets, des structures en bambou, mais finalement, je m'en sers aussi. Et puis finalement, c'est quand les toilettes sèches émergent, se pose aussi la question de la suite. Ok, mes productions, mes déjections ne partent pas avec la chasse d'eau, je ne sais pas où. Qu'est-ce qu'on en fait? Et là, ça amène au compostage et à tout le retour à la terre de ce que l'on nomme déchets et qui n'en sont pas, hein, qui sont des ressources, des matières organiques extrêmement importantes dans le cycle du vivant. Donc, le déclic, c'est ça, c'est des rencontres, c'est une réflexion, et puis
d'être confronté. Si je peux me permettre, c'est des lieux aussi, parce que effectivement, vous parlez de la formation avec donc Éric Julien, pour le coup. Elle se déroule pas dans un endroit, elle se déroule en fait dans un endroit aussi tout aussi inspirant.
Ah oui, c'est sûr, c'était la ferme agroécologique des Amanins, donc qui se trouve aussi dans la Drôme. La Drôme a l'air d'être territoire très, oui. Très, très riche
très
de
en
ressources
avance,
et très oui. En avance, effectivement.
Oui, sur les réflexions.
Et donc là, cette ferme agroécologique, elle a été cofondée par Pierre Rabhi, par exemple. Donc là-bas, s'y mènent des expériences pratiques. Et puis, c'est un lieu d'accueil voilà, pour des formations et autres. C'est un cadre très, très porteur aussi. Voilà. Et donc, l'école pratique de la nature et des savoirs dont j'ai parlé, qui fait cette formation, elle a aussi été cofondée par Edgar Morin, qui est un très grand penseur. Et une très belle personne, même si bon, je ne le connais pas personnellement, hein, mais en tout cas, quand je l'entends parler, je le trouve impressionnant. Donc voilà, c'est les formations, c'est pareil, je veux dire, le bambou, c'était dans un éco-hameau, donc c'est Bambou Création qui assure ces formations. Bertrand Chéreau, qui lui-même a vécu un temps en Indonésie, qui s'est reconverti là-dedans, enfin, donc tous ces parcours, tous les parcours de toutes les personnes que l'on croise, sont des enrichissements, les autres personnes qui se forment aussi, chacun amène ses réflexions, enfin c'est un vivier de richesse. Le vivant, c'est un enrichissement constant, en fin de compte, et humain, animal, végétal, peu importe. C'est vraiment quelque chose qui parle au cœur, en fait.
Oui, et puis j'ai envie de dire, c'est quand même ensemble qu'on arrive à mener des actions, à s'appuyer sur des personnes qui ont déjà défriché des chemins avant nous. Et ces rencontres-là, effectivement, font que des projets peuvent émerger un petit peu partout et que de rentrer dans un cercle vertueux qui est plus que nécessaire à notre époque.
Absolument.
Vous aviez parlé du compostage. Je crois que vous êtes guide composteur et maître composteur, c'est ça?
Oui, alors là, le maître composteur, la certification est en cours. Je vais développer un projet dans mon village, à Chanterac, de composteur collectif, dans ce cadre-là. Mmh. Alors ça, c'est pareil, c'est une formation que j'ai entreprise l'année dernière, enfin deux formations qui se complètent auprès de l'association Au Ras du Sol. Enfin, c'était une association, c'est devenu maintenant une coopérative, et avec des personnes là encore extraordinaires, et qui sont dans le concret, dans l'expérimentation depuis de nombreuses années, donc qui ont certaines connaissances. Parce que le compostage, voilà, bah, c'est extrêmement important dans la mesure où on a encore des matières que l'on doit jeter, entre guillemets, même si c'est de la matière organique, eh bien on composte. Si un jour on arrive parfaitement à manger toute de la racine à la feuille de nos légumes, ou etc., on n'aura plus besoin de composter et ce sera encore mieux d'ailleurs, mais en attendant, on a quand même 30% de nos sacs poubelles noires à transférer dans des composteurs. Alors ça tombe bien parce qu'à partir du 1er janvier 2024, il y a une réglementation qui va se mettre en place, qui n'est pas forcément encore très répandue au niveau des médias, c'est que chaque habitant en Europe, chacun devra trier et valoriser ces biodéchets à la source. Alors les biodéchets, ça sont les épluchures de légumes, les restes de cuisine, par exemple, hein, et y compris aussi la taille de végétaux. Voilà, tout ce qui est lié au végétal. Donc tout ça, il va falloir que l'on trouve des solutions. L'idée, c'est fini de le mettre dans un sac poubelle noir parce que ça n'a pas sa place là. Ça génère des pollutions. Ça augmente le coût de la prise en charge de nos déchets au travers des collectes, du transport, etc. Donc bon... on ne va pas trop aller sur terrain, il est un peu glissant en ce moment. Je crois qu'il y a quelques problématiques autour de ça. Mais en attendant, c'est une question à se poser. Est-ce que tout ce que je produis, ce sont des déchets, ou est-ce que je peux les réutiliser? Est-ce que si, effectivement, j'ai beaucoup de vrais déchets, mais finalement, qui sont créés par l'homme, hein, qui sont artificiels, je dirais le plastique ou autre, on arrive à avoir quelques solutions de recyclage? Enfin, comment repenser le rapport à nos objets, à nos équipements? Et en espérant que les industriels aussi s'emparent du problème, parce que je le trouve un peu injuste qu'il ne repose que sur les épaules des particuliers malgré tout. Hein, voilà. Mmh.
Tout à fait. En tout cas, le bambou, parlez-nous un petit peu de ce matériau qui est assez courant chez nous, un petit peu décrié à cause de son côté invasif, ou du moins pour certaines espèces. Parlez-moi de ce matériau qui vous tient à cœur et que vous utilisez dans vos réalisations, dans vos toilettes sèches aussi, et qui est très esthétique en tout cas.
Oui, alors le bambou, moi j'ai découvert ça parce que, pareil, j'y connaissais rien, donc encore des rencontres là, avec Bertrand Chéreau. C'est, en fait, c'est une plante extraordinaire, véritablement. C'est une plante qui a un cycle de croissance très rapide. Hein, on peut utiliser de manière... je dirais, sécure un peu le bambou entre 3 et 7 ans. De toute façon, après, il se dégrade. Mais ça veut dire que quand on est sur nous, sur des bois à croissance rapide, on parle du pin, c'est 40 ans. Voilà, là, entre 3 et 7 ans, vous pouvez utiliser cette plante. Sachant qu'ici, on ne va pas bâtir des maisons avec, on n'a quand même pas en Europe les bambous adaptés, hein, mais on peut faire des milliards de choses avec. Sachant aussi que c'est une plante, pardon, c'est très important, qui capte 30% de CO2 de plus dans l'atmosphère, et qui en rejette donc 30% de plus d'oxygène pour nous. Vous hein, voyez, donc, bon, je ne vais pas tout détailler, mais rien que ça déjà fait du bambou qu'on peut le regarder différemment. Après, son côté invasif, c'est vrai, certaines variétés le sont, eh bien, utilisons ces pousses de bambou, utilisons ces cannes. Et là, on peut faire pareil aussi, plein de choses, on peut les fendre sous forme de lamelles, ce qui permet de faire un habillage esthétique, donc c'est ce que j'utilise sur demande ben, pour mes toilettes sèches, effectivement, pour le meuble de toilette. Après, j'ai eu aussi une demande, là, tout récemment, de flexiurte, donc bâti avec des cannes entières de bambou, et qui font un petit abri, en fait, qui se déplie et qui se replie très facilement. Vous montez, vous démontez cette structure en 5 minutes. Voilà, c'est la demande qui m'a été faite. Et donc, pour toutes ces vertus, pour tout cela, ces matériaux qui est très léger, qui est hyper résistant, on l'appelle l'acier vert. Bon, bah, rien que pour ça, moi, je dis que ça vaut le coup de supporter l'invasion. Voilà, il y a des invasions plus nuisibles, à mon avis, que celle-ci.
Et bien plus nuisibles.
C'est sûr, mais on ne donne pas de nom, on est d'accord, pas de nom, ok.
Bon, bien, merci pour ce temps de discussion, c'est très très intéressant, très enrichissant. Je suppose qu'il y aurait encore des tas de choses à dire sur tous ces sujets. En tout cas, merci de ce que vous faites aussi pour le bien collectif. Au-delà de votre propre entreprise, vous œuvrez pour quelque chose de plus large et c'est nécessaire. Donc, on vous souhaite bonne chance pour tout le projet que vous mettez en place et les gens qui seront intéressés pour entrer dans ce cercle vertueux n'ont qu'un pas à faire de la Lune à la Terre pour entrer en orbite vers des pratiques salutaires. Merci beaucoup Myriam.
Merci à Bien en Périgord aussi parce que vous portez bien votre nom et merci de relayer toutes les informations positives. Ça change un petit peu de la sinistreuse ambiance. Les solutions existent et il suffit juste d'en parler. Donc merci parce que vous contribuez fortement à tout ça et ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup.
Vraiment. Merci Myriam. Thank you.